Donc ce soir, ben, si je reprends les paroles de Xavier Dijon des Amis du soir, bonsoir. Et donc nous allons reprendre une thématique à la fois que nous avons étudiée hier, que nous avons revue ce matin, pour ceux qui suivent tout le séminaire, et nous allons essayer d'aborder un sujet qui est délicat, qui est compliqué, aussi parfois subtil dans les documents de réflexion de l'Église, etc., mais qui est important. Je l'ai intitulé « Le corps embryonnaire ». Pourquoi ? Parce que c'est une expression qui revient dans un des derniers documents publiés par la Congrégation pour la doctrine de la foi sur les considérations de bioéthique et de respect de l'embryon. Et ce que j'essaie de montrer, tout en liant deux documents, Donum Vitae, qui est apparu en 1987, et Dignitas Personae, le dernier document, vous avez des références là sur votre feuille de route, c'est en 2008, c'est de montrer qu'il y a, dans la réflexion de l'Église, qui n'est pas celle d'un seul homme, qui n'est pas celle simplement du pape ou de la congrégation, il y a des évolutions de langage face à l'évolution biologique ou psychologique ou métaphysique du monde. Et donc il y a une sorte d'adaptation ou d'enrichissement possible, ce n'est pas automatique, mais de la réflexion sur tous les thèmes, et ici c'est un thème particulier, c'est sur le statut de l'embryon. Et cette question, même si certaines considérations que je vais utiliser, le langage de lecture, il y a deux documents auxquels je fais allusion, ne sont pas énormes, hein, c'est moins important que Harry Potter qui est à lire, quoi. C'est parfois un peu plus compliqué. Donc c'est l'instruction sur le respect de la vie humaine naissante et la dignité de la procréation, c'est Donum Vitae en 1987, réponse à quelques questions d'actualité qui ont changé depuis lors. Pour ça qu'il y a instruction Dignitas Personae. Sur certaines questions de bioéthique, on ne dit pas tout sur tout, mais on indique et on évolue et on précise la pensée. Eh bien, ça, c'est en 2008. Voilà. Je vous signale, parce que parfois, on croit que c'est énorme. Eh bien, écoutez, à Maurice Laetitia, la dernière exhortation, bien sûr, c'est 10 fois plus que ces petites pages. Mais vous pouvez les trouver sur le site du Vatican, donc c'est accessible à tout le monde, quoi. Donc c'est pas une question abstraite, elle concerne tout être vivant qui vient à l'existence, et dans le cadre de la réflexion de notre foi, on vient à l'existence et on est à l'existence pour toujours. Donc en bioéthique, cette thématique du statut de l'embryon, de son existence, sa venue au monde, elle sous-tend de manière implicite des tas de gestes qui sont bons pour l'embryon, pour le couple, ou qui sont moins bons. Donc elle est posée, cette question, en pastorale, en hôpital, en famille. Parfois on se dispute un tout petit peu, ou on se blesse parfois, dans ces débats éthiques. Et j'oserais dire, c'est aussi notre question, même si on est grand, la plupart d'entre nous, on est adultes, mais nous avons tous été petits, vulnérables, embryonnaires, à un moment donné de notre vie, avant qu'il y ait des échographies, ben, on était embryonnaires dans le sein de notre maman. Voilà. Et malgré tout ce que l'on dit, même si ce n'est pas si simple que cela, de déterminer le statut de l'embryon, je crois qu'il ne faut pas se dire, bon ben voilà, tout le monde peut dire n'importe quoi, il n'y a pas de position possible, il n'y a pas de réflexion possible, on ne saura jamais ce qu'est l'embryon. Mais quand on le laisse grandir, l'embryon, normalement il devient un bébé, et il devient, comme chacun d'entre nous, un homme et une femme. Donc il est bon pour l'humanité, il est bon pour nous de réfléchir, même si on n'a pas réponse à tout, à cette thématique complexe, ce n'est pas une impasse. Mais il faut trouver le langage, le vocabulaire le plus adéquat pour la dire. Donc il ne faut pas esquiver cette réalité-là ou la nier par artifice en disant ben, un embryon, perdu, 10 de retrouvé dans la boîte de Pétri, comme on dit dans certains laboratoires. Non, il s'agit d'écouter ce qu'il dit à notre humanité, maintenant qu'on le connaît un peu mieux. Il faut écouter aussi la voix religieuse, c'est pour ça que je prends ce chemin aujourd'hui, qui est le chemin de ces deux documents qui datent déjà, mais pour percevoir un peu comment l'Église peut éclairer aussi l'humanité et être interpellée par l'humanité. Alors, j'aborde, ça c'était l'introduction, le premier point, un statut personnel pour l'embryon. Dans Donum Vitae, ce n'est pas un texte suivi, c'est simplement des questions-réponses, comme les livres qu'on fait maintenant, avec une question à l'auteur et l'auteur qui répond. Hein, question un peu d'interview. On essaie d'éclaircir et d'orienter. Mais à l'intérieur de ces questions-réponses, qui sont un genre littéraire particulier, il y a quand même une doctrine, c'est-à-dire un enseignement original qui est présent, qui est en lien avec les doctrines antérieures, entre autres ce qui est dit de l'amour conjugal au dernier concile, dans Gaudium et Spes. Et en même temps, puisque Jean-Paul II n'avait pas beaucoup parlé de la théologie du don et puis de la personne, c'est un courant philosophique et théologique, le personnalisme, eh bien, ces deux modes de pensée sont confrontés à des nouvelles problématiques, puisque maintenant, on se dit, mais est-ce que c'est une personne dès la conception ou bien c'est une personne plus tard? Est-ce que c'est un pré-embryon ou c'est un embryon? Est-ce que c'est un zygote? Est-ce que c'est un fœtus, etc.? Donc, dans chaque fois, dans les deux documents, si vous voulez un peu aborder par vous-même, les numéros 1, 5 ou 1, 6, enfin, l'introduction forme comme un petit compact, une petite synthèse anthropologique sur ce qui a été réfléchi depuis 20, 30, 40 ans. Il s'agit de voir quels sont les traits de l'homme que l'on connaît, qu'on a déjà explicité, et puis à partir de cela, il peut avoir, c'est sûr, étant donné qu'il y a l'être de l'homme, l'identité de l'homme, c'est cela, être, eh bien, provoque un agir, l'agir vient de l'être, et on peut comprendre à ce moment-là que des normes ou des indications sur tel ou tel acte que l'on fait vis-à-vis de l'embryon ou avec la maman, etc., eh bien, sont bons ou bien ne sont pas bons. Alors, nous allons voir ce qu'est la vision de l'homme comme personne. Si on se souvient des premières passage de la Bible, il est dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est toujours le pôle de la création. Et le pôle de la rédemption, c'est-à-dire du salut, c'est par le mystère, l'incarnation et rédemption, par le mystère de l'incarnation du Verbe, c'est-à-dire le mystère de Noël, l'Église connaît aussi le mystère de l'homme. Donc, ce qui est arrivé à la deuxième personne de la Trinité, parce qu'elle est venue, en quelque sorte, elle a été dans le sein de Marie, eh bien, cette réalité-là, qui est mystérieuse, bien sûr, mais qui est décrite dans l'évangile de Saint-Luc, eh bien, éclaire le mystère de tout homme. Bien sûr, on ne réfléchissait pas de la même manière sur l'embryon au XVIe siècle que maintenant. Mais, donc, si la recherche scientifique de base et la recherche appliquée constituent une expression de l'intendance ou de la seigneurie de l'homme sur l'univers, croissez, multipliez-vous, changez la face de la terre. Si les parents, bien sûr, maintenant ont une meilleure conscience des conditions pour l'avènement de l'existence de leur enfant, il n'appartient ni à la science, ni à la psychologie, ni même à la maman ou au papa, ni au projet parental de définir l'être humain. C'est pas comme un a priori, je dis. Il doit être comme ça. S'il n'a pas de jambes, c'est pas un être humain. S'il n'a pas des yeux, non, il vient de la planète Mars. Définir a priori, non, c'est reconnaître comment, eh bien, ce que la science appelle un embryon, un fœtus, etc., être est un être humain. Comment, pourquoi, éventuellement, à travers quelques arguments qui surgissent dans ce cours, cette conférence que je fais. Donc, si la vie humaine est sacrée, c'est non pas qu'on ne peut pas y toucher, c'est pas comme certains politiciens disent que l'Église est obscurantiste parce qu'elle ne permet pas de toucher ou de voir le corps ou de guérir le corps humain, etc. Non, le sacré, c'est reconnaître que tout être humain qui vient à l'existence surgit à partir d'une volonté divine, donc d'un acte de Dieu, l'action créatrice de Dieu, qui est à un moment donné de l'histoire, 2e siècle, 3e siècle, 4e siècle, 3e millénaire, etc., à un moment donné de l'histoire, mais la création, cette action créatrice de Dieu reste, elle demeure. Donc c'est toujours un instant et c'est toujours une durée pour nous. Pour l'instant, nous sommes tous en train d'être créés par Dieu, que ce soit d'un point de vue philosophique, on peut l'argumenter comme ça, d'un point de vue théologique aussi, car sinon, nous ne serions pas, on s'évanouirait comme dans certains épisodes de Harry Potter, et comme par magie, on serait un fantasme, on n'existerait plus. Donc la création, c'est dans un instant et dans la durée. Et c'est l'homme est sacré à cause de deux affirmations que relève Donum Vitae, qui viennent de plus loin aussi du Concile. L'homme est sur la terre l'unique créature que Dieu a voulu pour elle-même, gratuitement. Pas pour le bonheur de Dieu d'abord, pas pour combler un manque dans son cœur ou dans sa toute-puissance, pour lui-même. C'est pour ça que l'homme est livré à son conseil, dit saint Thomas, où l'homme est libre, à la différence des animaux ou des autres espèces créées. Une autre affirmation qui est donnée, c'est « L'âme spirituelle de tout homme est immédiatement créée par Dieu. Tout son être porte l'image du Créateur. » Alors, comme ce mot est toujours délicat à utiliser, donc, l'âme spirituelle de tout homme est créée immédiatement par Dieu, comprenons-le pour le moment comme directement. Ce n'est pas une activité scientifique, ce n'est pas une activité parentale qui donne l'âme, je prends un vocabulaire un peu physiciste, un vocabulaire un peu d'objet, mais ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui donne l'âme parmi tout le monde créé, c'est Dieu lui-même qui, le terme technique, c'est infuse l'âme. Ça donne l'idée peut-être d'une bonne tisane. Voilà, c'est Dieu, il y a une relation immédiate, ça veut dire directe. Bon, et il indique, c'est pour ça qu'on y réfléchit aussi dans un séminaire de bioéthique, que le fait de pouvoir réfléchir à une juste conception de la nature de la personne humaine dans sa dimension corporelle peut nous aider à agir bien. La nature de la personne humaine, c'est la feuille de route. Donc, il faut que cette nature humaine se réalise et devienne comme une unité, une réalité unifiée avec toutes ses composantes. En tout cas, le corps, l'âme, l'esprit. Or, dit Donum Vitae, cette nature, donc je cite, si je parle trop vite, vous me dites, cette nature est en même temps corporelle et spirituelle en raison de son union substantielle avec une âme spirituelle. Le corps humain ne peut pas être considéré seulement comme un ensemble de tissus, d'organes et de fonctions. Il ne peut pas être évalué de la même manière que le corps des animaux, mais il est partie constitutive de la personne qui se manifeste et s'exprime à travers lui. Je commente. La personne humaine suppose donc une unité corps-âme. On peut ajouter des éléments cœur, corps-esprit, ou bien une unité corps-liberté. c'est chaque fois l'unité qui est mise en évidence pour dire la personne, ce qu'est une personne, ce qu'est une personne humaine. Même si les diverses facultés, quand je dis facultés, c'est-à-dire notre mémoire, notre intelligence, notre volonté, ces facultés peuvent s'exercer d'une manière différente selon qu'on ait 40 ans ou qu'on soit un tout petit bébé de 2 mois. Pour la mémoire, par exemple, pour l'intelligence, pour la volonté. Que veut le bébé? Il ne sait pas très bien le dire. Et il pleure, c'est qu'il a mal au ventre ou bien c'est qu'il a faim. Bon, parfois, il y a d'autres motifs. C'est qu'il faut le changer. Mais si un adulte pleure, c'est qu'il n'a pas le langage pour dire sa souffrance. Mais chaque fois, il y a des variations. Ce n'est pas parce qu'on a 40 ans, peut-être, j'explicite la thèse, hein, ce n'est pas parce qu'on a 40 ans qu'on s'exprime mieux dans tous les domaines qu'un petit bébé. Et à la fin de notre vie aussi, même si on a une vie très riche et très développée, et très cultivée, etc., il n'est pas toujours évident de pouvoir dire ce que l'on veut quand on est à l'hôpital, par exemple. Donc les facultés peuvent s'exercer de manière différente. Quand vous dormez, peut-être que votre mémoire est en train de donner de la matière à votre imagination et à vos rêves, mais quelque part, vous n'exercez plus votre volonté puisque vous êtes en dessous de votre oreiller et que vous ne pensez même pas, parce que vous dormez, à exercer votre volonté, à vous mettre debout. S'il faut vous réveiller de temps en temps, au milieu de la nuit ou le matin, il faut un réveil. Donc, pour réveiller la faculté, donc la personne tout entière. Donc, c'est vrai, cela, ces variations pour les facultés, pour l'adulte, comme pour l'embryon humain. Mais la personne se dit d'abord en son corps. Elle dit en son corps qui elle est, et elle demande qu'on la reconnaisse pour ce qu'elle est, un corps personnel. Et donc, à cette lumière, on peut dire que toute intervention sur le corps humain ne touche pas seulement des tissus, des organes, des fonctions, mais elle engage les divers niveaux de la personne, même si elle est endormie par l'anesthésiste. Donc, une intervention sur le corps humain, sur un organe, transplantation du corps, opération chirurgicale interne, etc., touche la personne, même si elle est endormie, et implique une responsabilité morale des membres de la famille, surtout du corps médical qui opère. Jean-Paul II disait, j'ai la citation ici, « Chaque personne humaine, dans sa singularité absolument unique, n'est pas constituée seulement par son esprit, mais par son corps. Ainsi, dans le corps et par le corps, on touche la personne humaine dans sa réalité concrète. Respecter la dignité de l'homme revient par conséquent à sauvegarder cette identité de l'homme, corpore en latin et anima unus. Ça vient aussi du concile Gaudium et Spes. Donc ces affirmations ne sont raisonnables que si on reconnaît au corps humain un statut particulier qui l'unit à l'être qui l'habite. Au début du séminaire, j'ai parlé un corps habité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une vraie relation existe, même si elle est difficile à définir, entre la personne, entre ce qu'est l'être humain et son corps. Et que son identité personnelle ne peut pas faire abstraction de ce lien qu'on appelle ontologique d'être avec son corps. Le corps n'est pas extérieur à la personne, c'est pas comme une enveloppe, comme un vêtement. La personne se manifeste et s'exprime à travers lui. Et l'unité de la personne confère donc un statut spécifique au corps humain, et par ailleurs aussi, à travers le corps humain, tel qu'il se présente, eh bien, on découvre que c'est un être personnel, même s'il ne peut pas parler, même si on ne voit que la forme de son corps en échographie. Le corps humain est un langage, donc il ne faut pas se priver des mots corporels pour connaître la personne. Je fais une petite comparaison, mais elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est toujours plus intéressant de pouvoir dialoguer pour un papa, une maman avec son fils à la maison ou sa fille à la maison, in vivo, en relation, que de passer par Skype, mais on est d'accord. Mais par contre, c'est sûr que c'est un moyen technique qui nous aide, surtout quand l'enfant se trouve en Argentine ou ailleurs. Mais c'est différent. Le corps a une importance palpable pour dire la personne. Alors, quel est le critère moral de donovité? Eh bien, il va apparaître, je le dis déjà, il faut respecter l'être humain dès sa conception comme une personne. Mais cette phrase et la réflexion qui la précède, n'est-ce pas une affirmation implicite du statut personnel de l'embryon? Est-ce que Donovité dit déjà, avec d'autres personnes dans l'Église, que l'embryon est une personne? Ça, c'est une grosse discussion et qu'il faut analyser. En fait, on connaît l'individu dès qu'il est embryon. Mais le mot individu ne dit pas que c'est une personne. Un individu, c'est un être unique, distinct d'autres individus, mais on ne dit pas encore que c'est une personne. Ici, Donovité emploie le terme embryon. C'est un terme scientifique, biologique, et chaque fois le qualifie embryon humain. Et elle rappelle les enseignements antérieurs du magistère. Je vais citer, dès que l'ovule est fécondé, se trouve inaugurée une vie qui n'est ni celle du père, ni celle de la mère. Une vie, voilà le terme, mais d'un nouvel être humain qui se développe par lui-même. Il ne sera jamais rendu humain s'il n'est pas dès lors. Voilà comme une indication de quelque chose de personnel. À cette évidence de toujours, la science génétique moderne apporte de précieuses confirmations. Elle a montré que dès le premier instant, se trouve fixé le programme de ce que sera ce vivant. Un homme, cet homme individuel avec ses notes caractéristiques déjà bien déterminées. Dès la fécondation, est commencée l'aventure d'une vie humaine dont chacune des grandes capacités demande du temps pour se mettre en place et se trouver prête à agir. Mais cette doctrine, un peu classique, mais qui s'est élaborée le siècle dernier, demeure valable, comme dit Donovité, et du reste confirmée par les récentes acquisitions de la biologie humaine qui reconnaît que dans le zygote dérivant de la fécondation s'est déjà constituée l'identité biologique d'un nouvel individu humain. Dans tout ce que j'ai cité, le mot « personne » n'apparaît pas. On parle d'individu, de vie, d'être humain, de zygote, d'identité biologique. Mais le document pose la question, comment un individu humain ne serait-il pas une personne humaine? Voilà la question, peut-être que vous vous posez aussi, qu'on entend par-ci, par-là. Comment un individu humain ne serait-il pas une personne humaine? Et les termes de réponse, provisoires si j'ose dire, sont les suivants, fruit de la génération humaine dès le premier instant de son existence, zygote, être humain innocent, tel est le statut de l'embryon. Donc les références au terme de personne sont comme dans une tapisserie, dans la trame de l'instruction Donovité. Et le point délicat, c'est de dire, est-ce que finalement, alors, de temps en temps, on dit à tel ou tel enseignant ou à tel ou tel prêtre, allez, un peu plus de clarté, est-ce que c'est oui ou c'est non? Ça, c'est le on-off de l'ordinateur, bien sûr. Mais quand une maman a un bébé dans son ventre, qu'on lui demande qu'elle est enceinte, elle dit oui, bien sûr. Mais dès que le bébé est dans la fivette ou dans un utérus artificiel, comment pourrait-elle le savoir? Sinon, elle doit se fier au biologiste, quoi. Elle doit voir une échographie. Mais c'est curieux que dans le ventre de la femme, quand elle est enceinte, elle sait qu'elle a un bébé en elle, quoi. D'où vient cette connaissance? C'est pas la même connaissance que la connaissance biologique. Donc, les conclusions scientifiques sur l'embryon humain fournissent une indication précieuse, dit le document, pour discerner rationnellement une présence personnelle dès cette première apparition d'une vie humaine. Et la question est reprise, comment un individu humain ne serait-il pas une personne humaine? Et le document dit, le magistère ne s'est pas expressément engagé sur une affirmation de type de nature philosophique. Donc les affirmations sont nuancées, même si elles pointent quelque part, dans un vocabulaire même scientifique, vers le caractère personnel de l'être humain nouvellement conçu. Mais le critère, donc, c'est pas qu'on ne sait pas, mais on n'a pas le vocabulaire où on ne veut pas trancher, précisément en 1987 en tout cas, sur le caractère personnel de l'embryon, mais on dit l'être humain doit être respecté comme une personne dès le premier instant de son existence. Alors il y a beaucoup d'interprétations, le « comme une personne » dans certaines langues, mais en français c'est ambigu. Parce qu'on peut dire « il doit être respecté comme une personne », c'est un élément comparatif, ou bien on peut dire « comme une personne qu'il est ». Quelle est l'interprétation ? Eh bien, il y a eu plusieurs théologiens des deux côtés. Mais, concluons en tout cas cette partie, que fragile, mystérieux, mis en question, le petit de l'homme montre dans son avènement à l'existence sa vulnérabilité et son besoin qu'il a de l'autre, de sa maman, d'une reconnaissance plus large. Et d'un point de vue non pas de l'ontologie, c'est une science de l'être, de philosophie, mais d'un point de vue d'une autre science philosophique, de la phénoménologie, qui est attentive, par exemple, on dit en grec au phainomai, à ce qui apparaît, à ce qui est dit dans le langage du corps, dans l'attitude de quelqu'un, etc., etc. Bien, du point de vue phénoménologique, on peut affirmer qu'il y a un temps dans la vie de toute personne où elle n'existe que par autrui, où elle dépend entièrement d'autrui. Cette dépendance est personnelle, en tout cas jusqu'à présent, sauf dans certaines techniques, etc. La dépendance de tout être humain embryonnaire, eh bien, c'est par rapport au corps de sa maman. Et donc, quelle que soit son apparence embryonnaire, qui est quand même déconcertante, puisque quand on ne le voit pas à l'œil nu, puis quand on commence à le voir au binoculaire, on voit 8 cellules, puis 24, puis 36, etc. Et puis on est étonné que son cœur batte et qu'il n'est pas, au fur et à mesure de sa croissance, qu'il n'est pas encore de système nerveux, tout ça, c'est pas comme nous. C'est pas une question d'avoir des lunettes ou pas de cheveux ou bien d'être plus vieux, etc. C'est quand même radicalement différent de voir un petit fœtus, un petit bébé. À un moment donné, il a une forme humaine, mais avant, il n'y a pas tout à fait la même apparence que nous. C'est la même question que certains Espagnols se sont posés quand ils ont rencontré les premiers Indiens en Amérique latine, en disant, mais est-ce que ce sont des hommes? Est-ce qu'ils ont une âme? Mais on est devant la même dynamique de recherche. Mais le principe moral a été énoncé, il faut le respecter comme une personne. Est-ce que ça dit quelque chose de l'identité de l'embryon? Je vous ai signalé les débats. En fait, cette vie corporelle qui est décisive, qui est importante, on voit bien, n'épuise pas le mystère de l'être humain, puisque le corps lui-même bouge. Il grandit, il est blessé, il est handicapé, il tourne dans le sein de sa maman, puis après, quand on grandit, ben, on bouge aussi, quoi. Il suffit de nous regarder les uns les autres ou voir quelques photos. Voilà, bien. Et alors, quand Don Uvité dit qu'il y a une inviolabilité du droit de la vie de l'être humain innocent, depuis le moment de la conception jusqu'à la mort, cette exigence morale qui surgit ne dit pas tout de l'identité personnelle, mais dit une exigence et un signe de ce qu'est, normalement en philosophie, l'inviolabilité de la personne. En déontologie médicale, on dit que la personne, son corps n'est pas disponible, on ne peut pas vendre ses organes comme ça. Il faut son accord, et on ne peut pas l'opérer sans avoir son accord. Le principe d'indisponibilité est un des fondements de la biomédecine. Alors, l'inviolabilité du droit de la vie suppose qu'il y a une inviolabilité de la personne, ça c'est logique en philosophie, mais nous rappelle en déontologie médicale qu'il n'y a pas de disponibilité arbitraire du corps d'autrui. Donc, puisque la question du commencement matériel chronologique de l'être humain, il est mis en évidence ici, si c'est une personne ou pas, quelle est son origine? Quelle est la cause première de... Qui dit personne dit une animation quelque part, c'est une totalité unifiée, un corps avec une âme. Alors, du point de vue théologique, et je termine ce premier état des lieux, du point de vue théologique, il y a des convergences. Pourquoi ? On peut parler ainsi. Dieu, il est le créateur de tout l'univers, de l'infiniment petit, de l'infiniment grand. On le chante à travers les psaumes, on l'a vu dans les premiers chapitres de la Genèse. Rien n'échappe à l'action créatrice de Dieu. C'est une raison pour laquelle nous avons parcouru, entre nous, les étudiants là, de l'IET, le psaume 139 et 139-138. Où irais-je loin de ta face? Est-ce qu'on peut échapper à Dieu? Non. On ne peut pas échapper à celui qui est le Créateur. Si le monde est dans la main de Dieu, comment penser que tous les fruits humains de la conception soient étrangers à son action et à sa connaissance? Au contraire, le Concile dit « L'homme est la seule créature sous terre que Dieu a voulu pour elle-même. » Dieu a voulu l'homme dès le commencement et Dieu le veut dans toute conception et dans toute naissance humaine. Dieu veut l'homme comme un être semblable à lui, comme personne. C'est là un argument, une convergence argumentative pour dire que le produit de la conception humaine est une personne. Cet homme, tout homme est créé par Dieu pour lui-même. Et donc, il y a là quelque chose qui est de l'ordre rationnel, mais aussi en lien avec la foi. Avant d'être reconnu par les autres êtres humains, avant de savoir que je suis enceinte d'une maman, ben, parfois c'est très rapide, elles le savent ou le devinent, ou bien il y a quand même des analyses hormonales qui permettent de le savoir, mais parfois il y a quelques heures ou quelques jours avant que la maman elle-même sache que son corps est en train d'être habité, il commence à changer. Mais avant cela, tout embryon humain est connu de Dieu. Dans le psaume 139, c'est le verset 13, si je me souviens bien, « Mon ébauche, mon goém, en hébreu, était connu de Dieu. » Donc avant toute observation médicale, avant tout test, eh bien Dieu veut l'embryon pour lui-même, en toute gratuité, et le met en alliance avec lui. Donc il y a quelque chose qui est déjà bien élaboré dans nos novités, qui est en lien avec la tradition biblique et en confrontation positive avec les nouvelles données de la science biologique et médicale. Il y a une évolution que je veux marquer dans les deux documents. Je vais parler plus du Dignitas Personae maintenant, mais la question de l'animation médiate ou médiate de l'embryon, elle est présente, on y fait allusion, parce que ça a été un débat théologique et ça demeure en partie difficile. Mais toutes les affirmations concernant l'identité de l'embryon ou concernant son respect, les soins qu'on peut lui donner, etc., n'ont pas passé à côté de ce débat théologique. Peut-être, oui, le contourne ou pointe notre réflexion vers un autre débat théologique sur la notion de la personne. Parce que les considérations dans les deux documents ne s'arrêtent pas à ce débat théologique. Mais on peut y revenir. Et une manière d'y revenir dans les deux documents, ou ma manière propre de m'exprimer, c'est de revenir en utilisant la notion de corps, et d'un corps habité, ou un autre mot, un corps qui manifeste une transcendance, c'est-à-dire un au-delà du corps. Le corps est un signe, un sacrement, non pas à l'extérieur de lui-même, mais qui montre qu'il y a une réalité qui le dépasse comme corps. Et dans Dignitas Personae, c'est pour ça que ça justifie un peu le titre ou la recherche de ce soir, c'est l'expression corps embryonnaire, au numéro 4. Alors, quand on sait l'importance des cellules souches embryonnaires, ça vous avez déjà entendu parler, l'importance des débats sur le clonage, l'expression corps embryonnaire paraît un peu nouvelle dans les documents même et aussi dans le langage et les débats de bioéthique. Et c'est pour ça que je m'y attarde. Est-ce qu'on ne peut pas s'attacher et approfondir l'expression corps embryonnaire, puisque c'est un peu neuf, et y voir comme un progrès de la pensée, de la réflexion, ou un progrès pour mieux cerner le statut de l'embryon. On note le terme corps embryonnaire au numéro 4 de Dignitas Personae. C'est un apax, comme on dit de manière technique. Dans la Bible, quand on dit, ou dans un évangile, on dit ce mot est un apax, c'est-à-dire qu'il n'apparaît qu'à cet endroit, qu'à ce moment-là. Et donc, ou bien on dit, c'est pas important. Quand dans la Bible, on dit quel est le mot le plus fréquent, qu'on dit c'est le mot amour, ou c'est le mot Dieu, ben, c'est une récurrence magnifique, et on dit c'est quand même, il ne faut pas passer à côté du mot Dieu, quoi. Mais aussi, un des arguments dans la Bible, quand on analyse, ben, ce mot, on ne l'a jamais entendu, on l'entend qu'une seule fois, donc on va y prêter attention. Je fais le même processus réflexif devant vous que ce que l'on fait parfois sur certains textes de la Bible. Donc, est-ce qu'il y a dans ce petit mot, corps embryonnaire, une lumière nouvelle? Est-ce que pour le statut personnel de l'embryon, cette expression ne serait-elle pas décisive? Car enfin, je donne déjà des prémices de ma réponse. La personne peut-elle exister sans son corps? Alors, qui dit corps n'implique-t-il pas le corps d'une âme ou le corps d'un esprit et donc le corps d'une personne? Le corps humain a de multiples visages. S'il est un vivant parmi les vivants, il est un vivant en relation dès sa conception avec d'autres vivants. Donc l'intersubjectivité, elle est vive dans un acte conjugal, au moment de la conception aussi. Et puis après, entre les relations entre la maman et son bébé, c'est quand même intersubjectif, interpersonnel. Bon, parler d'un corps embryonnaire, c'est dire qu'il est un corps avec des caractéristiques précises, différentes de celles de l'adulte, mais à l'intérieur d'un corps maternel. Il est un corps vulnérable, physique, non advenu à toutes ses potentialités, mais marqué d'un dynamisme, que ce soit génétique, corporel, de croissance biologique. Le corps existe-t-il avant la liberté? En tout cas, avant le libre choix, parce que le bébé, dans le ventre de sa mère, il n'a pas beaucoup de choix, il ne peut pas choisir de chanter, de crier, ou de téter, ou de changer de lit, ou... il est dans sa belle capsule, et voilà. Mais est-ce qu'il n'est pas libre, déjà? Est-ce qu'il n'est pas unique? Sauf s'il y a un petit frère à côté, monozygote ou hétérozygote, c'est-à-dire s'il y a un jumeau ou une jumelle à côté de lui. Mais il n'est pas interchangeable, un bébé n'est pas un autre bébé. Donc le corps est un carrefour de signification. Nous avons un corps et nous sommes corps, et donc c'est dans ce corps-là que la personne advient à elle-même. Elle ne peut pas se trouver ou s'habiter sans son corps. Or, la limite de ce corps, est-ce qu'elle est simplement individuelle? C'est-à-dire qu'elle fixe des frontières, comme la cellule d'une bactérie, c'est une frontière, avec un cytoplasme, etc. Mais est-ce que le corps de l'embryon est déjà ouverture? Est-ce que cette présence corporelle renferme une réalité qui est personnelle, qui n'est pas repliée sur elle-même, mais qui la met déjà en relation physiquement, biologiquement et même spirituellement, au sens, pas d'une prière commune, mais au sens de la personne qui est sa maman et au sens de la personne qu'il est. Donc, et puis le corps de l'embryon, comme chacun de nos corps, il est toujours un peu en danger. Est-ce que, s'il meurt, il se pose la question de qu'est-ce qui meurt? C'est un produit matériel de l'hôpital qu'on va mettre à l'incinération, ou bien c'est un petit être humain, c'est une personne, parce qu'il est animé dès l'origine par une présence qui est la présence de soi. Soi, comme disent les philosophes, la présence a son propre mystère parce qu'il est personne. Et je vous fais remarquer ceci. Les termes qui désignent l'embryon humain dans la recherche et dans les débats éthiques sont le plus souvent scientifiques et techniques. Et c'est ça, à mon avis, la grande différence entre « donum vitae » et « dignitas personae ». On parlait d'embryon humain. On mettait chaque fois « humain » pour dire que c'était pas une petite grenouille, quoi. Mais comment parler de celui qui est conçu dans un langage qui n'est pas seulement scientifique? J'ai jamais entendu une maman me dire « mon zygote va bien, quoi. Mon fœtus va bien. » Et à la suite d'une échographie, elle peut dire « le bébé va bien » ou bien « le docteur m'a dit que le fœtus avait un gros coup, était un peu anormal et donc c'est la catastrophe. Bon. » Bon. Mais comment trouver les mots et les langages plus adéquats pour ne pas être rien que dans le langage scientifique? C'est pas qu'il soit mauvais, mais si dès le départ la réflexion se fixe sur le zygote, le préembryon anglais, l'amas cellulaire, le grumeau, la morula, les cellules embryonnaires pluripotentes, totipotentes, le fœtus, l'embryon, eh bien, on est chaque fois dans un vocabulaire. C'est comme si vous parliez de la réalité de l'embryon en chinois, c'est-à-dire dans une très belle langue, compliquée ou simple, non, en latin, très bien, en latin, mais qui n'est pas uniquement la langue de l'embryon. Comment le nommer autrement? Et c'est là que je trouve que je dis déjà, pour aller un peu plus rapidement, que dignitas personae, c'est un pas en avant dans les documents de réflexion du magistère sur le statut personnel de l'embryon. Parce que ce deuxième document ne parle pas seulement d'embryon humain, mais parle de corps embryonnaire. Et donc, implicitement de nouveau, même explicitement, on va le voir dans quelques textes que je vais fixer, et il affirme un statut personnel de l'être nouvellement conçu. Je vais vous donner d'autres, si vous avez d'autres expressions, je cherche toujours, surtout quand je parle à des infirmières ou à des mamans, je dis, dites-moi un nom, non pas pour dire le bébé, non pas pour dire Sylvain ou Alain ou Amandine qui viennent d'être nés, mais un nom qui qualifie le petit bébé dès sa naissance. Dans les chants de Noël, il y a des tonnes de petits noms pour qualifier l'enfant Jésus nouvellement né. L'enfantelet, par exemple, c'est très populaire. Mais on n'a pas de mot pour dire l'enfant tout à fait récemment conçu. Mais il y a, dans la tradition récente, il y a quand même certaines personnes qui parlent, ben c'est mon fils, ou bien qui parlent, les enfants, quand ils touchent par la main, le ventre de leur maman qui est enceinte, et ils ont appris, etc. Et on leur dit, ah, c'est mon petit frère. On va prier pour mon petit frère, on va toucher. Ah, il bouge. Le mari, aussi. Bon. Le frère. Ou bien, comme c'était un grand jésuite biologiste italien qui dit, l'embryon, c'est ce grand méconnu. Mère Teresa disait, le plus pauvre parmi les pauvres. Donc, c'est dans ce contexte langagier, mais existentiel, qu'il nous faut réfléchir sur l'importance de l'expression corps embryonnaire. Et on a confirmation, non pas au numéro 4, puisqu'il ça n'a pas qu'une seule fois, mais dans d'autres citations de dignitas personae, il y a confirmation de cette doctrine un peu plus explicitement personnelle de l'enfant ou de l'embryon nouvellement conçu. Au fond, dans dignitas personae, le substantif, c'est le corps. C'est plus le mot embryon. C'est pas rien en langue française. Vous qui connaissez Bossuet jusqu'aux auteurs récents, vous savez que la langue française peut être très précise, très, très diplomate aussi, dit-on, mais très nuancée. Mais voilà. Cela ne signifie pas que le corps, en philosophie, soit une substance par soi, par elle-même. Le corps n'est substantiel que par son union avec l'âme. Mais si on reconnaît toute la beauté du statut corporel du zygote, eh bien, dès lors, on reconnaît aussi implicitement son statut personnel. Donc la richesse et l'originalité de dignitas personae se trouvent dans l'usage nouveau de l'expression corps embryonnaire, dès le premier paragraphe, et elle est au centre, je suis le texte dans lequel apparaît le corps embryonnaire, au centre d'une affirmation à la fois plus profonde et d'une affirmation scientifique que je lis, je crois que je vous l'ai donné. Le corps d'un être humain, non je crois pas, non. Je vous cite, le corps d'un être humain dès les premiers stades de son existence n'est jamais réductible à l'ensemble de ses cellules, la preuve pour les jumeaux, voilà. Ce corps embryonnaire se développe progressivement selon un programme entre guillemets bien défini et avec une finalité propre qui se manifeste à la naissance de chaque enfant. Donc je relis. Ce corps embryonnaire se développe progressivement selon un programme bien défini et avec une finalité propre qui se manifeste à la naissance de chaque enfant. Donc ce n'est pas un corps physique simplement, mais un corps qui est un des éléments constitutifs de l'être humain. Donc la liaison corps-âme, ou le mot corps, intègre le biologique, mais symbolise, comme on dit, symbolise, fait appel, comme si, à une relation plus ample. On est en train de passer d'un vocabulaire, disons, trop spécialisé, scientifique, à un vocabulaire plus de l'être, comme on dit, métaphysique ou ontologique. La notion de corps s'enrichit et oriente notre intelligence, notre cœur, vers ce lien substantiel entre l'âme et le corps qui définit la personne. Parler du corps de cette manière, c'est donc de nouveau indiquer un mystère d'unité qui est à l'intérieur de ce corps, qui est manifesté par ce corps qui m'apparaît au binoculaire, ou petit à petit quand il grandit, à l'échographie. Donc le corps n'est pas une valeur absolue. Ce n'est pas, comme on dit, une hypostasie du corps ou une adulation du corps dans l'instruction. La personne ne se réduit pas aux apparences de son corps, mais le corps est plus que la somme des cellules qui le structurent, même des cellules totipotentes au début. Il est une unité qui dépasse les éléments qui la composent, donc le corps était comme un tout organisé qui est intérieurement finalisé, dit le texte. Ce n'est pas un assemblage purement mécanique d'éléments distincts observables. Oui, c'est une cellule totipotente, puis 8 jours après, c'est une cellule omnipotente, elle n'a pas les mêmes caractéristiques. Mais c'est une unité, le corps de l'embryon, le corps embryonnaire, distincte par ses éléments assemblés, surtout quand il grandit, mais par ce qui en soi distingue d'un autre corps, fût-ce qu'en biologie, je peux le comparer avec d'autres embryons de d'autres espèces humaines, je vois une différence d'autres éléments de la nature créée. Et ce corps embryonnaire, il est actif. On dit dans le texte, il se développe. C'est pas rien. C'est un pronominal, comme on dit en français. Avec une finalité propre, et donc il y a un dynamisme, une finalité dans ce que je vois, même pas à l'œil nu. Donc, les connaissances que nous avons du rôle du patrimoine génétique, du cytoplasme, etc., eh bien, tout ça, c'est un programme, mais pas purement biologique ni génétique. Nous ne sommes pas seulement devant des considérations biologiques, parce que le mot programme, le mot finalité, disent un avenir qui est déjà présent dans ce que l'on voit. Et alors, bien sûr, le critère d'éthique fondamental énoncé par Donum Vitae, eh bien, est rappelé et explicité, peut-être avec plus d'arguments. Donc, le rapprochement entre le corps embryonnaire et la réalité visée par ce critère fondamental est éclairant, non seulement pour rappeler le respect qui lui est dû, mais pour reconnaître la réalité de ce qu'il est, puisque c'est ça un peu notre question ce soir, finalement, est-il une personne ou pas ? Donc, dignitatis personae va plus loin que Donum Vitae et dit, ça c'est un peu fort, au numéro 5, l'embryon humain a donc, dès le commencement, la dignité propre à la personne. que veut dire le verbe avoir par rapport à notre langue? Est-ce que c'est une identification totale? Parfois certains discutent, mais étant donné que le corps embryonnaire est unité corps-âme, on est passé vraiment d'un langage plus spécialisé, scientifique, à un langage plus ouvert horizontalement parlant, plus ouvert pour la théologie, pour marquer le lien entre l'âme et le corps, pour retrouver peut-être ce qu'on affirme pour tout être vivant, que ce soit quand on baptise un petit enfant ou après, qu'on est formé d'une âme, et d'un corps, et que l'âme informe le corps, mais que l'âme a besoin du corps pour exister. Donc, le corps nous dit quelque chose de la personne que nous voyons avec peine parfois. Et il nous rappelle dans le corps embryonnaire ce caractère inviolable de l'homme. C'est au numéro 7 que c'est rappelé. L'unité de son être, je cite, il a une vocation éternelle et est appelé à communier à l'amour trinitaire du Dieu vivant. Alors, pour faire un petit retour dans le temps, qui situe peut-être un peu ma parole, en 85, donc en janvier, j'étais étudiant comme vous, j'assistais à une grande session sur le statut de l'embryon, avec les grandes huiles et les grands pontifs de l'époque, et on doutait. Dans le colloque, on doutait pratiquement tous, à part un saint prêtre de la maison, et moi comme étudiant, peut-être on doutait du statut personnel de l'embryon. Et la phrase forte, je dis ça pour les... c'est un professeur de morale que je ne citerai pas, peut-être que c'est dans les documents, mais que penser de la béatitude éternelle d'une morula? Que penser de la béatitude éternelle, c'est-à-dire du salut? Je veux voir Dieu, nous sommes tous appelés à voir Dieu en notre unité personnelle, mais comment peut-on penser de manière logique, cohérente et sensée à la béatitude éternelle de la morula? La morula, c'est un assemblage de 6 cellules totipotentes. Donc je veux dire, c'est ridicule de penser ça. C'est ridicule. Et je crois que par rapport à ça, bon, les positions ont évolué, le temps a passé aussi, mais on voit bien que du côté de la recherche, même dans le vocabulaire de l'Église, on ne retourne plus au 1er siècle, même si les pères de l'Église avaient déjà parlé de l'embryon, mais on est adapté, on répond. Peut-être que tout n'est pas parfait encore, et le langage n'est pas là, c'est ça que je veux souligner, mais on va plus loin que cette ironie face à l'énigme de l'embryon en 85, je crois, c'est important. Et affirmer que le corps est important, c'est, on peut y réfléchir, mais je ne vais pas être plus long, c'est que le corps est, pour utiliser un argument paulinien, le corps est pour le Seigneur, le corps est image et ressemblance de Dieu, etc. etc. Donc, l'instruction manifeste une valeur inaliénable, une dignité intrinsèque à l'embryon et de manière plus ou moins explicite son statut personnel. Ça peut être encore discuté. L'embryon humain n'est pas sans son corps, il se donne ou il se donne à voir ou il se donne à autrui comme personne en son corps, il ne devient jamais lui-même sans son corps, etc. Ce point est important parce que ça change notre regard peut-être. Il ne s'agit pas seulement de constater, mais de réaliser que quand je vois le corps par des images ou par une vidéo, etc., la rencontre des gamètes issus d'autres corps, ça c'est l'embryon, le corps enraciné dans un patrimoine génétique qui vient de loin. La plupart de nos gènes ne servent à rien, ils viennent de nos ancêtres. Un corps qui est en voyage dans les trompes. Et parfois le voyage se passe mal et c'est une grossesse extra-utérine. Ou un corps qui est fixé à la paroi utérine. Tout ça, c'est une personne, c'est la même. Un corps confié à un autre corps. un corps qui a besoin de la protection de l'oxygène du corps de la maman. Ce corps qu'on ne voit pas d'habitude, et les parents ne voient pas ce petit corps non plus, on peut sentir qu'il nous habite, mais il quitte l'ombre des ovaires, de la trompe pour venir dans l'utérus, où on peut mieux le voir, bien sûr. Ce corps, il peut être extrait, produit, congelé, réduit. Il peut être évalué, rejeté, comme on l'a vu avec Étienne dans le DPI, comme matériel chromosomique déficient ou amélioré. Face à tout ça, toutes ces possibilités, tout peut bien aller aussi. Est-ce qu'on peut affirmer et regarder aussi, ça dépend d'un regard aussi, que le corps humain, et donc le corps embryonnaire aussi, ne peut jamais être qu'un corps parmi d'autres, qu'on peut remplacer par ce que j'ai dit ce matin, un corps en plastique, quoi, ou un spermatozoïde en plastique. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut fabriquer l'embryon de manière tout à fait extrinsèque à la chair? Et ce corps est livré et confié au corps maternel. Ce que je voulais conclure, ces deux, trois histoires, peut-être pour provoquer le débat. Donc, la création de tout être humain est la manifestation sous la forme symbolique du corps d'une volonté divine. Donc, cette volonté divine, entre guillemets, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une idée. Autrement dit, ben ça va peut-être vous choquer, il n'y a pas de mini-embryon au ciel ou dans un abri nucléaire quelque part dont on pourrait se servir de créatures potentielles. Ou bien, surtout, ça c'est encore très présent dans les esprits des catholiques et des chrétiens, on aurait des âmes en stock prévisionnel pour d'éventuelles conceptions. Et donc, si le corps embryonnaire est bon, eh bien, hop, Dieu viendrait avec son ange donner une petite âme, parce que tout ira bien. Par contre, si c'est un enfant, enfin, c'est un matériel chromosomique déficient, ben, Dieu ne viendrait pas et il ne s'occuperait pas il ne donnerait pas d'âme, quoi. Donc, Dieu est présent dans l'histoire humaine, et donc il est présent dans le corps embryonnaire, c'est ce que j'ai essayé de marquer. Dès que le corps embryonnaire paraît, quelles que soient les modalités de son surgissement, s'il vient par hasard, s'il vient lors d'un viol, s'il vient en fivette, etc., nous avons l'assurance, où nous pouvons réfléchir sur le fait que Dieu s'engage dans ce corps-là. Et donc, qu'il a un contact direct avec l'embryon qui naît de cette manière. S'il est marqué par l'handicap, les mutations génétiques, les différences chromosomiques, des faiblesses protéiques, etc., s'il est de l'espèce humaine, le corps embryonnaire est habité et donc mérite le respect inconditionnel dû à tout être vivant. Je vais m'arrêter là-dessus pour permettre une petite pause et un dialogue.